contre la grippe de notre société, blanche, brune ou rousse, thé ou café, venez ce soir à 20h prendre votre vaccin et retrouver les amis de là-bas au dispensaire L'Imaginaire, 5 place Louise de Bétigny, dans le Vieux-Lille. À 20h, venez nombreux.
Je viens de lire mon quotidien régional La Nouvelle République et je vois une page de publicité du MEDEF qui traite de la formation en alternance. Et cette page conclut « MEDEF, l'entreprise, c'est la vie ». Je pense qu'il faudrait demander aux salariés de France Télécom ce qu'ils en pensent. Merci.
Ouais Daniel, salut. Moi j'appelle pour dire que je suis bouleversé par la fille qui est encore suicidée à France Télécom. J'entends par la fenêtre, 32 ans. Franchement, bon moi j'ai le même âge. J'ai une copine aussi qui a le même âge, qui bosse dans un grand groupe CTLM. Et c'est la même histoire, c'est-à-dire que tous les 4 mois, on la change de secteur. Elle est contente quand elle arrive dans un secteur intéressant. Et puis, dès qu'elle commence à s'y adapter, on lui fait, tiens, tu vas aller là. Et puis, en fait, c'est tout pourri. Et puis, en fait, ils ne savent pas placer les gens. C'est des mauvais managers, il y a des mauvais cadres. Et puis il y a beaucoup de mépris, c'est la lutte des classes quoi. Il y a beaucoup de mépris entre les riches et les pauvres, hein. Voilà quoi. Puis les employés n'ont pas leur mot à dire, donc comme on les entend pas. Puis surtout que tout va avec quoi. Hein. C'est les filles de 32 ans, elles ont pas d'enfants. Il y a de plus en plus de Françaises, tu peux regarder. Hein. Il y a de plus en plus de Françaises de 30 ans qui n'ont pas d'enfants et qui n'en auront sûrement pas parce qu'elles voyaient leur carrière avant. Et puis en fait elles sont déçues quoi parce qu'il y a tout le monde qu'on veut, on l'a pas quoi. C'est la France de Sarkozy. Franchement, révolution.
Ben voilà, j'étais en train de faire ma vaisselle il y a 5 minutes. Et ça m'a traversé l'esprit de savoir quelle trace laissera Sarkozy dans l'histoire.
Mesdames, messieurs, bonjour. Votre émission d'hier ne concerne pas malheureusement que l'Italie. Il se produit exactement la même chose dans le midi de la France et c'est encore pire en Espagne. Alors invitez tous vos auditeurs à lire l'ouvrage de Patrick Herman, Les nouveaux esclaves du capitalisme, édition Audiable Vauvert. Il doit valoir environ 25 euros. Voilà. Merci de faire la commission.
Je vous appelle pour vous parler d'un gros truc, un gros chagrin qui est arrivé aujourd'hui. J'ai appris à la radio, là, aujourd'hui dimanche 12 septembre, la mort de Willy Ronis. Et Willy Ronis, c'était un très très grand monsieur, un très chouette bonhomme, un immense photographe qui a eu 99 ans le 14 août dernier. Et qui est mort ce week-end. Et j'espère que là-bas, si j'y suis, aura peut-être l'occasion de parler de lui, de faire une rétrospective sur sa vie, son œuvre, sa personnalité. C'est un type très très chouette, solidaire de tous les mouvements sociaux, de toutes les luttes, qui avait photographié le Front Populaire, tous les grands mouvements, les grèves de 56, et qui avait fait des chouettes photos. Il était de la génération de Douaneau, mais il a survécu à Douaneau et il y a eu une exposition très chouette de lui à Arles qu'il est allé inaugurer le 6 juillet. Et il y a eu sa grande rétrospective à l'Hôtel de Ville il y a quelques années. Voilà, il laisse un grand, grand vide dans nos cœurs en mourant. C'était un chouette monsieur et ce serait bien que vous nous parliez de lui, de Daniel Mermet et toute l'équipe de là-bas si j'y suis.
Comme beaucoup d'auditeurs, j'ai suivi le débat concernant la burqa et puis les réactions des AMG, le débat passionné, et j'aurais voulu apporter une interprétation un petit peu différente, en tout cas un point de vue un peu différent. Je crois que tout ce débat, et tout ce débat qui est créé médiatiquement et qui est créé aussi par des communautés, fait en quelque sorte diversion et a pour but finalement, et a pour effet, de nous faire regarder ailleurs. Alors pendant qu'on se pose la question de l'identité, de la diversité, eh bien on se pose plus la question de l'égalité et des inégalités économiques. On est détourné et c'est un merveilleux tour de passe-passe. Alors si cette question vous intéresse, il y a un article qui est publié sur Internet qui traite de cette question en détail. Il s'appelle « Comment nous avons appris à chérir l'identité pour ignorer l'égalité ?» Voilà, je crois que tout est dit dans le titre. Cet article peut être lu sur le site relecture.org, relecture au pluriel.org. Voilà, je vous le conseille. permettra peut-être d'apporter une nouvelle lumière sur ce débat.
Mermé, vous êtes un fouille merde, mais il en faut. Continuez, je vous adore. Clotilde de Cormeil.
Bah oui, Clotilde, mais c'est comme ça qu'on appelait les journalistes. Il y a même encore un mouvement des muckrakers, des journalistes américains, des fouilles merde. Merci, c'est un compliment, vous savez. Quoique, ce n'est pas que ça quand même. Oui, toujours beaucoup de messages, chers AMG, sur l'affaire de la burqa, effectivement. La question de l'identité, masquant la question de l'égalité. On a eu beaucoup de messages. Vous pouvez les retrouver sur laba.org, la-ba.org. Il y en a une certaine quantité. Et puis, on va essayer de regrouper tout ça et mettre ça sur le net parce que ça nous a un peu surpris, pour tout dire, hein. C'était assez décoiffant, l'ensemble de... Mais ça, je pense que ce sujet, évidemment, n'est pas épuisé. Willy Ronis, oui, on lui avait consacré une émission, on l'avait rencontré, c'était un bonhomme absolument merveilleux, un vrai prince. Là, on peut parler de prince en ce qui concerne Willy Ronis. Et je pense que le meilleur hommage à lui rendre, c'est de regarder ses photos, de contempler ses photos. Il y a eu cet été sur France Culture une série d'entretiens avec Willy Ronis, qui était un véritable délice. Vous pouvez sans doute retrouver ces entretiens dans les archives de France Culture. Et je parle archives parce que là, aujourd'hui, on va plonger dans les archives de la base si j'y suis. Vous n'ignorez plus que cette année, c'est les 20 ans de là-bas si j'y suis. 1989, 2009, 20 ans de là-bas si j'y suis, là-bas à 20 ans. Et ce n'est qu'un début, bien évidemment. Alors, dans les 4400 émissions, numéro de là-bas si j'y suis, c'est pas facile de s'y retrouver déjà. D'abord de les retrouver. Et puis d'y accéder, parce que tout ça maintenant est sous le contrôle de l'INA. Alors c'est assez curieux d'ailleurs de rendre difficile, enfin que soit rendu difficile l'accès à notre propre travail, mais enfin bon, c'est ainsi. Et là, on va commencer ce retour en arrière avec une émission qui date du 15 février 1993, il y a donc 16 ans. Quand je dis retour en arrière, c'est pas tellement ça, c'est pas un coup dans le rétroviseur. C'est aussi réfléchir à la fois évidemment sur pour nous sur notre travail et puis réfléchir sur le temps qui passe, sur le temps qui est passé 16 ans après. Le sujet c'est le chômage avec Zoé Varier, que vous retrouvez tous les vendredis avec Bonheur sur France Inter, qui était reporter pour la base j'y suis à ce moment-là. On avait décidé d'aller à la sortie d'un bureau des Acédiques à Nanterre, près de Paris, et très simplement de demander aux gens qui étaient là, aux bénéficiaires, comme on dit, non sans ironie, comment ils vivaient ça, quelle était leur situation, qu'est-ce qu'ils ressentaient. Et vous allez voir que à quelques détails près, comme on parlait en francs et non pas en euros, des montants, des petits détails comme ça, vraiment, ce reportage pourrait avoir été fait il y a quelques jours à la sortie d'un bureau de Pôle emploi. On aurait à peu près la même chose. Sauf que, à l'époque, l'indignation avait été très grande. Je me souviens encore des réactions, de vos réactions, de stupeur, d'étonnement, de compassion, de peur. S'il y a un mot qui peut résumer notre temps, notre époque et ses 20 ans, c'est bien, hélas, celui-là, celui de la peur, d'une peur imposée, entretenue par le chômage. 250 000 emplois supprimés en France au premier semestre 2009. On prévoit 11% en 2010 et 12% en 2011. Voilà notre sujet du jour. Je vais y revenir. Mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. J'ai entendu sur les ondes de France Inter la présidente d'une région dire que la fraude est un délit pénal. Je ne sais pas si tel est le cas, si notre code juridique constate comme un délit pénal la fraude. Auquel cas, que faudrait-il penser de la fraude qui a été infligée au peuple français, à nous, qui avons voté de façon massive, 55%, avec un taux de participation extraordinaire. Notre opposition à une Europe néolibérale, qui aujourd'hui fait tous les ravages que vous connaissez. Et qu'ensuite, cette volonté, cet acte solennel à laquelle nous avons participé, nous avons été fraudés pour constituer le traité de Lisbonne. Si cette présidente de cette région de France pouvait me répondre et pouvait m'aider à restituer la volonté de nous, citoyens français. Merci.
Bonjour à Daniel, bonjour à tous les auditeurs de là-bas, si j'y suis. C'est Valérie de Dreux. Alors moi, aujourd'hui, je téléphone parce que je veux envoyer mes encouragements à tous les producteurs de lait qui sont présentement en grève. Moi, s'il y a un conseil que je peux donner aux auditeurs, trouvez-vous donc un gentil producteur dans votre coin qui pourrait vous vendre directement son lait. Vous allez, à ce moment-là, valoriser son travail. Et les profits iront directement à ce producteur-là qui fera probablement beaucoup plus d'argent que s'il doit le vendre à l'industrie. Moi, dans mon coin, j'ai un gentil producteur qui me vend son litre de lait à 60 centimes. Imaginez du bon lait frais plein de vitamines et minéraux pour 60 centimes le litre, soit le prix que l'on paye la brique en magasin.
Bonjour Jacques, je suis de Lyon. Je rentre d'outre-mer, en principe j'avais par habitude de critiquer beaucoup France Inter, et en fait maintenant que je suis sur Lyon, j'écoute souvent RTL ou Europe 1. Oh quelle merde comme radio, il n'y a pas d'autre mot, hein. France Inter, je reconnais que vous êtes quand même bien meilleur. Alors ce matin, le pataquès sur les problèmes de feu là, mais alors ils vont nous faire un foin toute la journée. Hop, alors l'animateur sur RTL, qu'est-ce qu'il est mauvais, hein. Et mauvais et orienté, très partial. Ça, c'est inadmissible. Mais alors, vraiment, le mauvais, enfin, je suis un animateur, c'est même pas un journaliste, hein. Donc voilà, je voulais un petit peu revenir sur les points de vue que j'avais sur France Inter pour reconnaître que France Inter, vous êtes quand même le numéro un, hein. C'est à mon point de vue. Et RTL, quel bouillon, hein. Allez, très bonne journée à tous.
Le repère de là-bas, si j'y suis, à Bayonne. Eh bien, c'était vraiment un bonheur de vous retrouver, toute l'équipe, sur France Inter, et nous allons nous réunir le 15 septembre au Trinquet Saint-André à Bayonne. Le 15 septembre au Trinquet Saint-André à Bayonne à 20h30. Voilà, vous êtes tous attendus, les AMG.
Salut Daniel, salut tous les AMG et tous les auditeurs du monde. Voilà, c'est Carolo. Et ben moi, je voudrais juste laisser un message pour dire que j'attends une petite fille, tu vois, qui va arriver cette semaine-là. Et j'entends tout, tu vois, j'entends la gauche, la droite, le désastre, l'écologie, les finances, les traders, les banquiers, la sécu, tout. Et voilà, et moi, il y a tout ça, j'ai pas envie de le transmettre à ma petite. Il y a juste, voilà, ma petite Nanette qui va naître cette semaine. Et j'ai envie de lui dire juste qu'il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a des belles choses. Et il n'y a pas que tout ce qu'on entend partout, partout, partout. Voilà, il ne faut pas baisser les bras pour personne. Et voilà, j'ai à côté de moi mon petit chat qui ronronne, tu vois, je suis au chômage, mon copain aussi. Et ben, on a plein d'amour. Et peut-être que c'est ce qui manque dans ce monde-là.
So, ich dachte eben, die Wacke ist schon.
Voilà, c'est le chant symbolique des 20 ans de là-bas si j'y suis. On était face à ce mur de Berlin il y a 20 ans avec tous ces gens venus d'un peu partout, d'Europe notamment, d'Europe centrale notamment, taper sur ce mur à coups de pioche et de marteau. Voilà, c'est le son des 20 ans de là-bas si j'y suis, là-bas à 20 ans, et ce n'est qu'un début. Alors aujourd'hui, donc, Souffrance en France. On avait intitulé cette émission Souffrance en France. C'était le 13 février 1993. Vous êtes rappelé ce qui se passait en 1993 en quelques mots. C'était l'année où Frédéric de Clercq et Nelson Mandela recevaient le prix Nobel. C'était en janvier que Bill Clinton entrait à la Maison Blanche. C'était en février, l'attentat au World Trade Center, le premier, 6 morts et 1000 blessés. C'était également le 13 septembre, je m'en souviens, les accords d'Oslo, je m'en souviens parce qu'on était en studio avec Edgar Morin qui regardait ces images tout à fait ébahies, la poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin et Clinton, les bras écartés comme un ange réconciliant ces deux hommes et ces deux symboles. On connaît la suite. En France, les 21 et 28 mars, ça a été la victoire de la droite aux élections législatives. Le 1er mai, c'était le suicide de Pierre Bérégovoy. Je fais qu'évoquer quelques moments pour que vous remettiez un petit peu dans l'époque. Et le 2 avril, c'était le début du téléphone portable. Et oui, c'est voilà ce qu'était 1993. Beaucoup de choses ont changé, mais ce qui n'a pas changé, vous voyez, cette jeune femme, cette jeune maman dit, voilà, avec mon copain, on est au chômage. Ce qui n'a pas changé depuis cette époque, c'est le chômage. Sauf qu'on pensait pas qu'on allait s'installer aussi durablement, évidemment, dans ce chômage. Et n'oublions surtout pas que le chômage est aussi un enjeu politique et idéologique pour les néolibéraux. Le niveau élevé de chômage, c'est à cause des charges patronales, c'est à cause des 35 heures, c'est à cause de la protection sociale maintenue par l'État. Bref, si le chômeur est au chômage, c'est parce qu'il le veut bien. Et ça, c'est un courant idéologique qui est très imprégné, qui a fait son chemin dans les esprits. Et puis, en principe, il y a une autre analyse qui, en principe, devrait être une analyse de gauche, un regard de gauche et une politique de gauche qui pencherait pour une intervention de l'État, une intervention de la puissance publique pour limiter, voire interdire les licenciements tout en soutenant l'activité économique par la demande. Mais voilà, et ça, on voit bien qu'il y a là un enjeu. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le chômage et la peur du chômage ne conduisent pas à la révolte, contrairement à ce que on peut croire, on aurait pu croire, nous l'avons cru nous-mêmes dans ces années-là. On a fait pas mal de reportages sur des manifestations, je me souviens d'une manifestation de chômeurs. C'était absolument sinistre et ça n'a absolument rien donné. Le chômage conduit non pas à la révolte, mais à la résignation, tant le sentiment d'humiliation est profond. N'oublions pas non plus que ce qu'était la situation de l'Allemagne dans les années 20, avec un taux de chômage extrêmement élevé. Voilà quelques indications. C'est pas gai du tout, mais c'est ainsi. Je crois que ça mérite d'être vu en face. J'ai évoqué la publication cette année-là, en 1993, de La misère du monde, de Pierre Bourdieu, avec cette formidable préface où il évoque la responsabilité de porter la parole des gens qui, si on n'était pas venu les voir, n'auraient peut-être pas parlé et pas parlé ainsi. Et puis c'était l'année où sortait un livre qui s'appelait L'horreur économique de Viviane Forrester, qui n'est pas une économiste du tout, mais ce livre, en qualifiant cette révolution néolibérale conservatrice qui s'était imposé et qui s'est toujours imposé, qui domine toujours nos vies, avait qualifié cela d'horreur économique. Les résultats, les voilà. Nous avions baptisé cette émission, nommé cette émission Souffrance en France.
Les salauds, chanson engagée. Une chanson contre les bourgeois qui crachent son venin à face de la société. En blé, on va pas s'emmerder, non? Mon père est mort à la guerre, mon frère se tue au travail, et les salauds s'en moquent bien, que l'on crève comme les chiens, les salauds. Les salauds, c'est C'est à la sueur de notre front que les salauds gagnent leur pognon. Et ils nous aident pour faire ripaille les copains de notre travail. Les salauds, oui mais un jour on sera fort. Et dans les villes et dans les ports, les hommes lèveront leurs poings pour foutre sur la gueule des rupins. Les salauds, alors ils vont envoyer leur police, mais comme on est plus nombreux, on va leur foutre sur la gueule. Et on va leur faire bouffer leur képi, parce que s'il y en a qui a m'emmerdé, j'y fous ma guitare à travers la gueule. Alors merde, on va pas se faire emmerder par les flics, hein. Comme la gueule.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Zoé Varier, là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from...
Doucement, je m'angoisse. J'étais en psychiatrie, hein, moi.
À cause du chômage.
Ouais, à cause du chômage. La dépression. La dépression, je suis encore suivi actuellement. Des fois, je craque, hein. Des fois, je renverse tout, moi, chez moi, je deviens fou, ouais.
Vous avez entendu cette porte? Bande de foutus à la porte. Toutes les portes ne font pas le même bruit. Celle-ci, c'est la défaite secrète. C'est la panique qui ronge. C'est le cancer, c'est l'autre sida. Ah, c'est Dick. Poussez cette porte. 3 millions passent par là. 3 millions. Frontière nouvelle. Au bout de la chaîne, de la machine à fabriquer des exclus. C'est le début. Ici, on tombe de haut et tout le monde ne rebondit pas. Grand-peur et misère d'une fin de siècle. Aujourd'hui, le bruit, les mots des chômeurs. Souffrance en France. En principe, animateurs de TSF, on est là pour vous faire oublier tout ça, mais il n'y a vraiment plus assez de paillettes pour tout maquiller. Chiffres, débats, grandes affaires, discours, thèmes pour virtuose de la démago. Le chômage, ça sert à ça. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Quels sont les mots des gens, des hommes, des femmes pour dire ça? Aujourd'hui, à la sortie des acédiques, avec Zoé Varier.
On est vraiment inutile en ce moment. Et c'est de pire en pire. Ça s'arrange pas, hein, je vous le dis, moi.
Vous êtes en colère?
Ouais, je suis en colère, parce que quand on vient passer des heures et des heures, et puis il y a des fois où vous repartez, vous n'avez même pas la réponse à de quoi on demande. Enfin, c'est comme ça. Et je m'ennuie, hein, je vous dis, parce que depuis l'âge de 14 ans que je travaille, j'ai 40 ans, j'ai jamais été au chômage, c'est la première fois. La première fois, je suis venu au guichet là, on m'a dit comme ça, faut prendre un ticket, je ne savais pas du tout, moi. Et à 40 ans, c'est dur de retrouver, hein. Je suis allé jusqu'à Porte de Vanf. Et quand il m'a dit comme ça, quand je lui ai dit mon âge, il m'a dit non, ne m'intéressait pas. Alors si on est vieux à 40 ans, à quel âge on doit-on être vieux? Je sais pas. J'ai jamais eu l'habitude d'être au chômage. C'est la première fois et ça me ronge un peu. Ma femme travaille, bon, mon fils est en études, il a 19 ans, il passe son bac cette année. Je me trouve inutile, moi. Je lui aide, bon, dans les tâches ménagères un peu. Je lui aide, quand même, parce qu'elle, elle travaille. Mais c'est pas mon job à moi. Moi, mon job, c'est travailler, c'est tout. Hein. C'est pas d'ailleurs rester à la maison, hein. Ça se fait pas. Mais c'est dur, hein. De 14 ans à 40 ans, quand vous avez travaillé, et puis que là, au bout de 13 ans de maison, on vous fout en l'air, là, ça fait drôle, hein. Changement de propriétaire. 40 ans, quand même, c'est pas vieux, hein. Je crois qu'on peut encore travailler, hein. On peut donner encore un maximum. Mais ils veulent des jeunes, mais... Ils veulent de l'expérience, mais ils ne veulent pas payer aussi. C'est ça le problème. Ils veulent des jeunes, donc ils les payent moins. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Alors là, j'attends. Bon, je vais peut-être sortir à une heure et demie. Puis je vais retourner chez moi.
Et qu'est-ce que vous allez faire?
Je vais aller manger. Regardez la télé. Qu'est-ce que vous voulez faire cet après-midi? Et l'après-midi, il n'y a rien à faire.
Avant, quand je travaillais, j'étais dans le marketing de produits industriels et le développement commercial dans un cabinet conseil. Et puis ce cabinet s'est transformé en société de recrutement, ce qui fait que j'ai été licenciée économique. Et puis depuis, je ne trouve pas de travail, quoi. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que... on se pose plein de questions quand on cherche depuis longtemps. On se dit, c'est parce que je suis une femme, c'est un métier d'homme. On se dit, c'est parce que j'ai un enfant, je suis seule avec un enfant, donc ça fait peur aux employeurs. Est-ce que c'est parce que j'ai pas les diplômes qui correspondent à mon poste? Quand vous cherchez un travail bac plus 2 et que vous avez une expérience supérieure, on vous dit surdimensionné. Enfin bon, vous cherchez des tas de raisons. À la fin, vous dites, c'est moi. Non, c'est pas moi. Tant pis pour eux, ils veulent pas m'embaucher, tant pis pour eux. Je refais mon CV assez régulièrement pour redynamiser. Je fais des campagnes de recherche différentes pour quelquefois j'emmène plusieurs en même temps, c'est-à-dire genre mes lignes avec relance dans des domaines différents et tout ça. Après on cherche des formations, on s'aperçoit que les gens qui peuvent vous donner des formations finalement vous apprendront pas grand-chose. Après vous tombez sur une super formation mais qui coûte tellement cher que personne va vous accorder l'argent. Enfin bon, c'est ce qui se passe en ce moment. Bon, c'est complètement je pense faire ce qu'il faut pour trouver du travail, j'en ai pas bon. Mais c'est vrai que c'est une des angoisses que j'ai en me disant, bon, on est trop nombreux sur le marché, quoi. Il n'y a plus de travail. Puis bon, quand je vois les gens qui travaillent, des gens que je connais qui travaillent, j'en connais quand même qui travaillent, sont surchargés, complètement surchargés et sous-payés. Et puis nous, à côté de ça, bon, les revenus sont quand même très faibles. Mais je veux dire, en même temps, on est une charge. Moi, je me sens être une charge pour la société. Ça, c'est sûr, depuis le début de mon chômage, je trouve ça un peu certainement très lourd pour la société. Alors pourquoi pas partager? Je veux dire, j'ai un temps fou que je gaspille à chercher du travail. Et c'est comme si, je veux dire, passer une semaine de recherche intensive ou faire de la musique. Finalement, ce qui est plus positif, c'est faire de la musique parce qu'on a progressé dans quelque chose. Vous voyez, c'est complètement contradictoire, quoi. Quand ça va pas bien, je laisse tomber cette recherche intensive. Je m'accorde, disons, une demi-journée à faire, à assumer ma passion, c'est-à-dire jouer de la flûte, à travailler quelque chose de constructif qui dépend pas de la situation économique et sociale, en fait. C'est comme ça que j'arrive à tenir. Et je pense que quand je vais dans des réunions d'information sur des stages ou autres et que je vois d'autres personnes donc dans la même situation que moi qui sont accablées, j'ai l'impression qu'il y a le poids de leur vie qui les écrase. Je pense que ces personnes-là n'ont pas justement de passion qui leur permet de se ressourcer, quoi. Je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est trouver une activité qui vous permet de rester pas utile, si vous voulez, mais un côté qui vous fait avancer, quoi.
Vous avez quel âge?
Je vais avoir 36 ans.
Faire de la musique, le droit à la paresse, c'était le terme, le but ultime de l'utopie. Depuis toujours, depuis que l'homme se tient sur ses pattes de derrière, il a essayé de se débarrasser du poids, du fardeau, du labeur. Les révolutions industrielles, les révolutions technologiques sont allées dans ce sens-là, bosser de moins en moins, suer de moins en moins. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que la productivité s'accroît dans nos pays riches et la production de richesses, qui est de plus en plus grande, correspond symétriquement à une production d'exclus. Angoisse, galère.
Je suis un peu amusé par l'état d'esprit des employeurs maintenant. Quoi. Je suis vraiment même surpris, je dirais. Parce que y a du monde. Alors quand on est 30 à se présenter une place, ils vous regardent de haut, c'est un peu marrant. Quoi. Alors qu'il y a quelques années, ça se passait pas du tout comme ça. On prenait le journal, le lendemain on travaillait. Quoi. Maintenant, c'est pas du tout ça. Quoi.
Vous trouvez ça normal à 22 ans d'être au chômage?
Si je pouvais ne pas l'être, je vous garantis que je préférerais travailler parce que j'aime pas rester inactif. Hein. Mais c'est difficile, quoi. Les gens, ils prennent vraiment leur temps pour choisir. Et puis, à la limite, ils ont raison, il y a du monde. Hein. Autant qu'ils prennent leur temps, c'est tout.
Combien vous touchez par mois?
5 100 à peu près. Et en salaire, avant, je touchais 6 800, 7 000. Enfin, c'était variable, hein. J'avais des primes, etc. Mm-hmm. Mais enfin, bon, ça va, j'arrive quand même à m'en sortir. Faut faire attention, c'est tout. Quoi. On peut pas se permettre certaines choses, quoi. Mais dans les recherches d'emploi, en transport, etc., ça coûte énormément d'argent par mois. Enfin, c'est un petit budget, quand même.
Combien?
Il faut compter 300 francs, largement, en comptant la carte orange, plus les petits à côté, quoi. Et puis, il y a les journaux, il y a la presse, les timbres, les photos et compagnie. Donc, ça coûte de l'argent, quoi.
Mais vous n'êtes pas en colère, là?
Ouais, si, il y a une chose qui me surprend seulement, c'est quand les employeurs ils ne répondent pas aux lettres, ou alors on fait des démarches dans leur entreprise et puis ils nous répondent pas, quoi. Enfin, moi, ça, je suis très amusé quand je me présente à des places où ils marquent tenue, bonne présentation, et puis quand je vois les gens arriver en jean, etc., et que moi, je suis bien habillé, Camille, j'ai pas été pris, je me dis, ouais, c'est marrant, quoi. C'est un peu surprenant. Et je pense pas que ça soit que ça qui rentre en ligne de compte, mais c'est un peu étrange, quoi.
Vous vous sentez chômeur ?
Moi, je me sens demandeur d'emploi, surtout.
C'est pas pareil ?
Non, c'est pas pareil.
Qu'est-ce que c'est la différence ?
Bah, le demandeur d'emploi, c'est quelqu'un qui cherche à trouver un travail, et puis un chômeur, c'est vraiment... Le gars qui reste chômiste, même si c'est dans la forme, c'est la même chose, quoi.
Ça veut dire quelqu'un qui cherche plus ?
Ouais, quelqu'un qui attend, quoi. Moi, j'attends pas, moi. Je ne veux pas attendre. Voilà.
Rien. Y'a rien. Je m'ennuie. Je m'ennuie.
Vous cherchez de l'emploi ?
C'est dur. Ouais, mais y'a rien en ce moment.
Et toute la journée, alors, qu'est-ce que vous faites ?
Je regarde la télé. À me retire devant la télé.
Pour oublier ?
Non, même pas, parce que je sais même pas le film qui passe, même si je regarde la télé. On voit rien. Je vous assure, c'est déprimant. Je m'excuse. J'arrête. C'est vraiment déprimant. Peut-être.
Au revoir.
Au revoir.
Se réveiller le matin et n'avoir rien à faire. Être au seuil d'une longue journée molle et floue. Ça peut arriver. Ça arrive. C'est arrivé à beaucoup. Ne plus sentir à sa place. Ne plus avoir une place. Droit au travail. Droit de l'homme. Le chômage remet en question la finalité de nos sociétés libérales. Mais qui, franchement, a vraiment les moyens de remettre en cause cette finalité ? Qui a vraiment le sens de l'indignation ? Un sens de la révolution suffisant à la sortie des ascédiques de Nanterre ?
C'est-à-dire, je viens de finir mes études il y a 8 mois et je cherche du travail dans ma branche. Je suis maquilleuse artistique. Tout le monde me dit que c'est bouché, mais bon, j'envoie des lettres et j'essaie encore de percer, quoi.
Vous avez envoyé combien de lettres ?
J'ai envoyé à peu près, pour l'instant, plus de 100 lettres, à mes curriculum vitae, etc., à des productions télévisées, aux productions pour le cinéma, etc., etc.
Vous avez eu des réponses ?
J'ai eu des réponses, surtout dans la haute couture. Ils m'ont dit, ils m'ont répondu poliment, mais d'autres qui m'ont rien envoyé du tout, quoi.
Mais toutes les réponses ont été négatives.
Oui, négatives. Ou alors certains me disaient, si on a un poste qui se libère, bon, ben, on vous répondra. Et voilà.
Avant, vous n'avez jamais travaillé ?
Ben, avant, j'étais étudiante, mais sur Toulouse. Et j'étais en agriculture. Et donc, j'ai complètement changé de branche. Je suis montée à Paris, quoi. Parce que c'était un métier artistique qui me correspondait. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver dans ce milieu-là, quoi, du travail, quoi. Surtout si on connaît personne, si on n'a pas de relation, donc c'est assez difficile.
Vous touchez des allocations ?
Non, je ne touche rien. Heureusement que mon mari est monté, puisqu'il travaillait sur Toulouse et moi j'étais sur Paris, et qu'il travaille intérimaire, quoi. Voilà. On s'en sort comme ça, on vit dans une chambre, et en attendant, et voilà.
Vous pensez que vous allez trouver du travail ? Comment vous vous sentez, là ?
Je suis quelqu'un quand même qui fait beaucoup, ça peut-être pas de rapport, mais de relaxation, qui arrive à me détendre, et pas mal de choses comme ça. Donc ça me maintient quand même... dans un bon état d'esprit, quoi.
Qu'est-ce que vous faites toute la journée ?
Je m'occupe des courses, de pas mal de choses, dans la maison, de faire mes lettres d'embauche, et je fais des ménages le soir. Ah voilà, si. 2 heures de ménage le soir.
Mais vous vous sentez chômeuse ou pas ?
Non, je connais pas ça, quoi, en fait. Hein. Je veux dire, je cherche dans ma branche et j'arrêterai pas de chercher tant que je trouve pas. J'espère tenir. Je tiens bon pour l'instant, quoi. Je veux pas tomber dans le pessimisme. Mais bon, c'est vrai que quand mon mari était par contre sans travail, c'était plus difficile, quoi, là. On commençait à avoir le moral un peu à zéro, quoi. On se disait, qu'est-ce qu'on va faire ? Tant qu'on a un salaire, quoi, qu'on peut vivre, on ne se rend pas tellement compte. C'est quand on commence à avoir plus rien, quoi, du tout. Puis nous, on n'en parle pas trop quand on n'a rien, quand on est à la dèche tout d'un coup. Et ça reste entre nous, c'est difficile. Mais extérieurement, on ne montre pas, quoi. On ne montre pas, on essaie de vivre normalement, qu'on n'a rien, quoi.
Vous connaissez cette voix, cette femme qui parle, vous la connaissez, c'est vous peut-être. On a tous entendu cette voix-là, on a tous été, on est cette voix-là, on sera
cette voix du demandeur d'emploi, du chômeur. Cette émission, ce que vous entendez là, date de 1993. Voilà pourquoi on entend des 5100 francs. C'était encore les francs en 1993. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit en commençant, c'est le 20e anniversaire de La Basse et J'y suis. L'émission a 20 ans. Et comme ça, au cours de cette saison, on va revenir sur un certain nombre de reportages qu'on vous a proposés au cours de cette année. Là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, un autre anniversaire, celui de l'effondrement de Lehman Brothers et le début du krach financier, la découverte de ce monstrueux krach financier. Il semble bien qu'un an après, au moins provisoirement, on ait trouvé la solution, c'est-à-dire que les États ont fourni l'argent public nécessaire au redressement du secteur financier, mais pas du secteur économique, et encore moins du monde social. Et on se dit, c'est tellement monstrueux, c'est tellement scandaleux. Pourquoi si peu de résignation, si peu de mobilisation? Mais à cause de cette résignation, le chômage, la perte d'emploi, induit et pousse à la résignation. Voilà pourquoi ça risque de durer encore assez longtemps. Donc voilà, vous avez compris, on est à la sortie des ascédiques de Nanterre, on est en 1993, en janvier 93, et c'était un reportage de Zoé Varier. Deuxième partie.
J'ai donné ma démission, j'étais chef d'entreprise.
Et pourquoi ?
Parce que je changeais de travail, je prenais une autre création qui doit avoir lieu en septembre prochain, et voilà, donc j'ai donné ma démission.
Ah, un an à l'avance, vous avez donné votre démission ?
Voilà, tout à fait, oui.
Et là, vous vous retrouvez ici, aux ascédiques. Est-ce que vous avez l'impression que c'est votre monde ?
Pas du tout, mais j'y suis pas pour longtemps, mais non, absolument pas. Non, c'est pas du tout mon monde, mais faut y passer, c'est pas grave, et je me mets à la place des gens qui y sont depuis pas mal de temps, ça doit être assez démoralisant, assez triste.
En fin de compte, vous vous sentez plus en vacances pour une petite année avant de pouvoir reprendre votre travail ?
Je suis pas en vacances, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, donc ce qui me permet justement d'avoir des journées, même si je suis plus dans un cadre particulier que j'avais auparavant, mais ce qui me permet d'avoir des journées tout à fait normales et bien remplies, donc je ne me sens pas inutile, si vous voulez.
Mais comment vous faites pour vivre si vous n'avez aucune allocation ?
J'ai des allocations depuis la fin décembre, donc j'ai vécu un peu sur tous mes arrières, mes antécédents, et puis voilà, donc c'est une organisation de couple. Et c'était un peu dur quand même, faut reconnaître que c'est plus la vie. On est obligé de passer sur certaines choses que je faisais auparavant et que je ne fais plus maintenant, mais bon.
Comme quoi, par exemple ?
Tout ce qui est les restaurants, rencontres, vacances, on fait quand même plus attention, quoi, voilà.
Votre salaire, c'était quoi à l'époque ?
Mon salaire était de 25 000 francs mensuels.
Et là, vous touchez combien par mois ?
12 000.
Effectivement. Enfin, vous êtes déjà bien loti, mais ça fait une sacrée différence.
Tout à fait, mais ça fait quand même une différence énorme, absolument. Oui. Ça fait quand même une grande différence.
Un problème avec votre femme du fait du changement de niveau de vie ?
Elle était au courant, hein, c'est un cap à passer, ça ne va pas durer longtemps, mais pas de problème, enfin bon, ça change. Mais c'est passager, je pense.
Mais c'est plutôt agréable cette année-là, alors ?
Pour moi, c'est pas désagréable, non. On n'a plus de cadre, d'heures, si vous voulez, de travail. Ça, effectivement, on sort un peu de tout ce qu'on a connu depuis des années. Mais comme j'ai toujours été habitué à travailler beaucoup, moi, ça ne me dérange pas de me lever le matin comme avant et de travailler comme auparavant, si vous voulez. Enfin, bon, il y a juste le cadre duquel on en est sorti. Ça, c'est un changement, effectivement, oui.
Vous n'êtes pas chômeur dans votre tête ?
Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors là, absolument pas. Non. Mais je comprends quand même, je l'approche d'un petit peu. Bon, je ferai comme pas beaucoup de gens ici, mais je me rends compte quand même que ça doit être très 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 dur à vivre.
Chômeur, c'est l'insulte quasiment, c'est le mot tabou. Le héros de cette fin de siècle, en France, c'est le poinçonneur des lilas. Ce pauvre bougre désespéré que peignait Gainsbourg dans les années 60, aujourd'hui, tout le monde rêve de rétablir cette fonction. Les politiques en rêvent. Et peut-être aussi pas mal de chômeurs, justement.
Là, je téléphone tout à l'heure, ils me disent, vous pouvez venir, on vous fait un chèque sur place, j'attends au moins plus d'une heure, là. Et après, on me dit de passer dans la salle à côté, il va falloir que j'attende encore une heure. Je dois payer ma facture d'électricité aujourd'hui. Alors, ils veulent pas faire d'avance. Alors, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire.
Vous êtes tout jeune, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 25 ans, ça fait un an et demi que je galère ici. J'ai même pas eu, on m'a proposé un stage de 2600 francs à la NPE, c'est tout. J'ai eu une seule fois une convocation à la NPE.
Qu'est-ce que vous faisiez avant?
Agent de sécurité, pompier. J'étais licencié économique au bout de 3 ans et demi. Comme je travaillais de nuit, j'ai eu un ulcère à l'estomac à cause de ça. J'ai pas le droit de travailler de nuit. Dans la journée, il n'y a rien. Ou je suis sous-qualifié. Ils me sous-qualifient. Parce que moi, j'ai une qualification, ils doivent payer 7500 ou 8000 francs par mois. Ils me proposent le SMIC.
Donc vous refusez?
Oui, je suis obligé de refuser. Que le lieu que je fasse, je gagne plus ici que si j'allais travailler la journée. Ici, je gagne 4008. Je travaille la journée, je vais toucher 4008. C'est la même somme, c'est affolant. Ben ça, pour survivre, on est obligé de faire des conneries. Hein.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait?
Travailler au noir, faire n'importe quoi pour gagner du fric. Hein. Que voulez-vous faire d'autre? Vous êtes obligé d'attendre le 16 du mois pour toucher des sous. En attendant, vous avez le temps de crever. Hein. Vous êtes obligé de travailler au noir, non déclaré, puis voilà. Hein. Vous faites choper, vous êtes radié.
Vous aviez une copine avant d'être au chômage?
J'ai toujours une amie qui en a marre, quoi, qui est infirmière, qui en a marre de... Oui, ça fait 8 ans qu'on vit ensemble, ça fait un an et demi, elle en a marre que je foute rien, quoi. Elle en a marre que des fois, j'ose même plus rentrer chez moi, l'affronter. Ça fout les boules, quoi. Vous rentrez, elle a gagné un salaire, on se démerde avec 7500 par mois. C'est la folie, quoi. Que je fasse. Obligé de voler des fois de la nourriture pour manger. C'est dingue, quoi. On fait la délinquance, après, quand vous êtes jeune. Vous connaissez tous les délinquants du quartier. Hein. Puis la génération qui va venir, ça va être de pire en pire. Hein. Le chômage, vous allez à une PE, y a rien. J'étais à Courbevoie pour du gardiennage, on était 200 personnes.
Pour combien de places?
10%. Pour 10%. Il faut être bilingue. Si vous savez pas parler l'anglais, c'est même plus la peine d'être gardien. En plus, vous êtes même pas reconnu, ce métier n'est même pas reconnu. Alors, je crois que je vais finir, je sais pas, dans la rue. Hein.
Mais vous êtes pas prêt à accepter n'importe quel type de boulot?
On m'a proposé bâtiment 2600 francs.
Par mois?
Oui. Vous imaginez? 2600 francs. Mais c'est la folie. Faut que j'accepte. Si on n'accepte pas, on se fait radier.
Qu'est-ce que vous faites toute la journée?
Rien, je glande. Je m'angoisse. J'étais en psychiatrie un mois.
À cause du chômage?
Ouais, à cause du chômage. J'ai une dépression. J'ai une dépression, je suis encore suivi actuellement. Des fois, je craque. Hein. Des fois, je renverse tout, moi, chez moi. Je deviens fou. Hein. C'est la folie. Non, même là... Plus je grandis, plus je vois que on vit dans un monde de dingue. C'est la folie.
Tous les matins, c'est les recherches pour manger. Puis l'après-midi, des bricoles pendant une heure, question de paperasse, et après rien. Rien, je déprime, on est dehors.
Vous vivez dehors?
Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais qu'est-ce que vous voulez faire?
Vous êtes SDF? C'est ça que vous êtes en train de dire?
Je dirais pas SDF, mais presque. Presque. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 2000 francs par mois?
Pour ceux qui prennent en cours, là, c'est vraiment pas la peine de résumer. Aujourd'hui, c'est le sujet, c'est le tabou, c'est le secret, c'est la honte, c'est la galère. Souffrance en France, c'est le chômage, le chômage. Les mots du chômage, pourquoi faire? À quoi ça sert d'entendre ces mots-là? C'est les mots des gens qui sont chômeurs qu'on veut vous faire entendre pour rendre ça visible, pour se repérer en espérant de nouvelles solidarités.
J'ai 59 ans et je suis au chômage depuis 50 ans. J'ai été virée, enfin, nous avons été licenciés de la presse. Nous avons été vendus à notre groupe de presse qui nous a eu à l'usure pour nous mettre dehors parce qu'ils n'avaient plus besoin de nous. Ils ne voulaient plus nous, mais ils n'étions pas rentables. Et depuis, j'ai fait des petits boulots en petits boulots. Puis maintenant, j'ai 59 ans. C'est terminé. C'est la galère. Voilà.
Vous ne trouvez pas de travail depuis 9 ans?
Pas de travail défini. Hein. Comme beaucoup de chômeurs, même plus jeunes, des petits boulots ou des boulots... le maximum que j'ai trouvé, c'est 6 mois, 8 mois. Puis après, remets-le. C'est très, très fatigant pour les nerfs. On devient dépressif après. Hein. J'ai de la peine à parler parce que... De mettre à jour ces problèmes, ça me retourne. Excusez-moi. Bon, mais... En même temps, ça vous met en contact avec le monde des vivants. Vous comprenez?
Vous avez l'impression que vous êtes dans le monde des morts?
Oh. Tout à fait, sur une autre planète. Ben, la planète des morts vivants. Excusez-moi, on se remplit par le haut, on se vide par le bas, c'est tout ce qu'on fait. On tient debout. Mon Dieu, on est au banc de la société, au banc de la famille, au banc de tout. Bon, d'accord, on est un peu en partie responsable parce que on devient un peu asocial, mais même les gens après, c'est une mise à l'écart progressive. Ça devient hallucinant, on devient fou.
Depuis 9 ans, votre vie s'est transformée?
Ben oui, parce qu'au début, bon, j'arrivais à vivre. Parce que la prime de licenciement était, comment dirais-je, était importante et puis décadente. Mais j'ai ce qu'on appelle la fin de droit.
Vous touchez combien?
2000 francs par mois. Alors c'est l'horreur. J'avais un logement, j'arrivais même plus à payer les charges, j'ai failli être saisie plusieurs fois. Puis maintenant c'est l'horreur.
Qu'est-ce que vous faisiez comme travail exactement?
Ah ben j'étais secrétaire de presse. Oh, c'était passionnant, passionnant.
Qu'est-ce que vous faites toute la journée?
Tous les matins, c'est comment dirais-je, les recherches pour manger. Puis l'après-midi, des bricoles pendant une heure, question de paperasse, et après rien. Rien, je déprime, on est dehors.
Vous vivez dehors?
Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec 2000 francs par mois?
Je ne cherchais plus.
59 ans, madame, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis surtout, avec les... j'ai plus de moyens pour me pomponner. Ce qui me retourne, c'est d'être au banc de la société. Parce que bon, d'accord, tous les matins, on fait la recherche pour la subsistance. Mais moi, cérébralement, je suis pas morte. J'adore lire, j'adore aller au cinéma. On peut me chercher un journal. Un journal correct. Rien pour s'alimenter là-dedans. On devient fou. Parce que je suis une marginale, mais une marginale d'occasion, pas une marginale par goût. C'est ça qui me rend fou. Les contacts, le manque de contacts. Ne plus pouvoir lire. Ne plus pouvoir lire, ne plus pouvoir participer, ne plus pouvoir bouger, être toujours évolué dans le même carcan, le même... toujours des chômeurs. Puis ils ont une mentalité spéciale. On n'en peut plus, on devient fou. On devient fou. Parce que les milieux chômeurs, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe les chômeurs normaux, les chômeurs qui sortent de prison, les chômeurs clochards. Non, c'est pas ça. Moi, j'en peux plus de vivre là-dedans. Parce qu'au bout d'un certain temps, on n'en sort plus. On est comme dans un gouffre sans fond.
Les hommes de la ville ont vieilli cet été. Les muscles inutiles, c'est si lourd à porter. Ils partent le matin aux petites annonces où l'on se trouve sans quand il faut être deux. Ils reviennent le soir et leurs femmes renoncent à chercher la réponse écrite dans leurs yeux. Les femmes de la ville ont vieilli cet été. Les plaintes inutiles, c'est si lourd à porter. Pour toi, voici le temps d'amours adolescentes. Et tu lis le journal par d'autres dépliés. Que les matins sont longs aux phrases décevantes. Et les amours finissent avant qu'on ait osé. Les enfants de la ville ont vieilli cet été. La honte juvénile, c'est si lourd à porter. Les enfants de la ville grandissent en hiver avec des yeux hostiles posés sur l'univers.
Un dernier témoignage pour finir à cause du bébé.
J'ai cherché partout, standardiste, agent administratif, bon, des tas de trucs comme ça, mais bon, c'est bouché quoi. C'est vraiment. Non, il n'y a rien. Bon, et déjà les gens qui ont une qualification dans ce domaine passent devant, même si vous avez une licence d'histoire, ça ne sert à rien. C'est normal, hein, d'ailleurs, c'est tout à fait logique. Mais bon, je pense que c'est un stage qui est nécessaire, quoi. Un stage en informatique ou quelque chose, quoi. Je sais pas encore. C'est tellement... À ce niveau-là, je sais pas.
Vous gardez le moral, quand même, hein.
Ouais. C'est vrai que, bon, la semaine dernière, c'était vraiment le fond. Et cette semaine, ça va beaucoup mieux. Donc, ça dépend, quoi. Il y a des jours, c'est vraiment le moral, on a envie de se battre. Et d'autres jours, c'est... Qu'est-ce qui m'est arrivé ?
Et quand vous vous dites qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que vous faites toutes ces journées-là où ça va pas ?
Je prends bébé, je vais le promener.
C'est ça qui vous fait tenir, c'est
ouais,
le bébé ?
Ouais. Quand ça va pas du tout, je rêve, je me dis c'est pas possible, ça va arriver, il va se passer quelque chose. C'est incroyable, quoi, avoir fait des études, avoir fait tout ce chemin, et se retrouver là comme ça, et pas savoir quoi penser, qu'est-ce qu'il faut faire... Plus personne sait vous conseiller, il sait plus quoi. Et tout autour de moi, c'est constamment. J'ai une amie là, elle va se faire licencier à la fin du mois. Ça fait 3 mois qu'elle est à Paris. Bon, on est entouré de tas de gens comme ça. Et bon, c'est vis-à-vis des situations des autres qu'on relativise notre situation. Mais bon, c'est vrai que on se sent. Enfin, moi, je me sens pas exclue parce que je suis entourée de chômeurs. C'est surtout ça, quoi. C'est parce que je vis avec, quoi. Mais c'est vrai que les gens qui travaillent peut-être ont une image des gens, surtout des jeunes qui travaillent pas, que c'est un peu par fainéantise. Surtout, ouais. Mais bon, il n'y a pas que ça, quoi.
Non.
Il n'y a pas que ça.
Des fois, vous vous dites que c'est un peu de votre faute si vous êtes au chômage ?
Ouais. De ne pas avoir suivi un cursus formation différent, ouais. Parce que quand on fait des études littéraires, je crois que à part des concours dans l'administration ou l'éducation nationale, il y a rien, quoi. Vous avez fait oui, wow, vous avez une licence, une maîtrise, même plus, mais vous êtes littéraire, c'est pas grave, vous servez à rien. C'est ça.
Vous avez quel âge ?
30 ans. On va aller se balader. On va se promener. Mais je vous souhaite une bonne après-midi.
Merci vous aussi. Merci.
Au revoir. Au revoir.
S'allumer, parler c'est l'affaire de tout un chacun, fumer calme nerf, angoisse et chagrin. La propriété c'est le vol, la sobriété c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle. C'est l'État, le tyran public et toutes les soies des en république. La loi s'est tuée dans tous les tiers états. Fumer prohibé et même en HP. La propriété c'est le vol, la sobriété c'est le trac. Ne pas fumer peut rendre folle. Très bientôt musique, amour, poésie seront interdits par tous ces maudits.
Voilà, merci à tous. Je le rappelle encore une fois, c'était un reportage de Zoé Varier du 15 février 1993. Et c'est le début de la rétrospective là-bas, si j'y suis, à l'occasion du 20e anniversaire de notre émission 1989-2009. Mais ce n'est qu'un début. À lire ou relire La misère du monde, dirigé par Pierre Bourdieu, réédité au Seuil en 2007. Et puis j'ai évoqué l'horreur économique de Viviane Forester. Et puis un message au correspondant des repères de la base, si j'y suis, envoyez-nous vos adresses mail afin que l'on puisse vous envoyer des messages. Et puis la très belle chanson que vous avez entendue, qui vous a retourné, j'en suis sûr, était chantée par Francis Lemarque. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno. C'est Coy Nguyen et Raphaël Moutea qui ont réalisé cette émission. L'original en 93 avait été réalisé par Philippe Labrousse. Notre assistante, c'est Agnès Lebotte et c'est Catherine Pinto qui attend vos messages au répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Si jamais par une chance ou un hasard formidable, vous vous reconnaissez dans ces émissions anciennes, celle-là de 93, surtout, laissez-nous un message sur le répondeur de l'émission. On serait évidemment très heureux de vous rencontrer au 01 56 40 37 37, le numéro du répondeur. Réclame.